RJB Info.
Joël Régui.
Bonjour. Changement à la tête de la députation francophone du Grand Conseil. L'UDC Étienne Klopfenstein a remis le poste à la socialiste Sandra Roulet-Romy. Nous serons en direct avec l'agrarien de Corgémont pour tirer le bilan. 1 million de kilomètres en un week-end, c'est le défi lancé à tous les Suisses passionnés de marche et de course. Un challenge qui devrait être relevé assez facilement selon les organisateurs. Soleil et bise pour aujourd'hui, quelques cumulus cet après-midi mais temps toujours sec. Il fera au mieux entre 19 et 20 degrés, demain toujours du vent de l'est et des rayons de soleil. Lundi, la bise se casse le nez. Étienne Klopfenstein a laissé la tête de la députation francophone à sa collègue du Grand Conseil, Sandra Roulet-Romy. La passation entre l'agrarien et la socialiste s'est faite mardi, selon un tournus annuel. Pour rappel, la députation regroupe les élus du Jura bernois et les francophones du cercle électoral de Bielle-Seeland. Son but est de défendre au Grand Conseil les intérêts de la population francophone dans les affaires qui la concernent spécifiquement. Nous accueillons en direct Étienne Klopfenstein. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez dirigé la députation durant une année pour la première fois à ce poste. Comme président, vous avez joué quel rôle exactement?
Alors, quand on est membre de la députation, on a un rôle à jouer. En tant que président, bien sûr, on a un peu plus de contacts. Notamment, on participe au bureau du Grand Conseil qui se réunit en général ou d'ordinaire une fois avant chaque session pour préparer la session, le programme, et puis une fois pendant la session pour valider les différentes interpellations, motions, postulats qui ont été déposés. Cette année, il y a eu deux séances supplémentaires liées au COVID-19 qui ont été agendées fin mars et fin avril, afin d'accepter les mesures qui ont été prises par le Conseil exécutif.
C'était justement ma prochaine question. Donc, durant cette période, vous n'avez pas vraiment siégé, mais seulement en petit comité. Vous avez quand même pu travailler, donc?
Tout à fait. Donc, les mesures ont été prises afin de protéger au maximum les personnes qui étaient présentes. Il faut savoir qu'on a siégé dans la salle du Grand Conseil, où il y a 200 places et on était une vingtaine de personnes membres du bureau pour prendre ces décisions.
Étienne Klopfenstein, durant cette période, le conseil exécutif a disposé d'un pouvoir étendu. Est-ce que, d'après vous, il l'a bien utilisé sans votre surveillance?
Oui, en tout cas dans le cadre du bureau, nous avons félicité le conseil exécutif pour les mesures qu'il a prises. C'est une situation qui n'est pas facile, qui est extraordinaire, qui est nouvelle. Il faut agir dans l'urgence, mais je crois qu'ils l'ont fait dans la meilleure, au plus près de leur conscience, afin d'apporter le soutien nécessaire à la population du canton de Berne. Et puis également au niveau sanitaire, un grand effort a été fait afin de protéger la population face à cette pandémie.
Maintenant, en termes de bilan de votre année de présidence, l'hôpital et la psychiatrie, on sait qu'elles ont représenté de gros dossiers. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de où on se trouve?
Je pense qu'actuellement, le travail a été fait. Personnellement, donc, j'avais déposé une motion par rapport à la psychiatrie interjurassienne. C'était surtout pour savoir comment sont répartis les coûts et comment le déménagement se fait aussi du côté de Moutier. Personnellement, je suis d'accord que la psychiatrie doit évoluer aussi. Le site de Bellé n'étant peut-être plus adapté aux nouvelles visions de la psychiatrie, d'une part, et puis d'autre part aussi, c'est un bâtiment qui est très, très coûteux, qui est plus totalement adapté à la psychiatrie actuelle. Et ça fait sens de trouver de nouvelles solutions par rapport à ça. mais elles doivent être faites aussi d'une manière correcte. C'est par rapport à ça aussi que des différentes interpellations ont eu lieu par différents députés du Jura bernois.
Différents députés, justement, vous étiez président durant cette année. Est-ce que vous avez pu jouer un rôle un peu d'arbitre, de rassembleur, ou est-ce que le climat qui règne, notamment sur ces questions-là au sein de la députation, est toujours tendu?
En tant que président, c'est le rôle que nous avons, effectivement. C'est d'avoir une position quand même neutre vis-à-vis de chaque député, on doit le considérer en tant que tel. Et je pense que nous avons trouvé finalement aussi le climat nécessaire pour avoir une certaine sérénité.
Donc vous laissez le flambeau, vous avez fait du bon travail selon vous, le climat est serein, c'est ce qu'on pourrait dire?
Alors écoutez, c'est pas à moi de dire si j'ai fait du bon travail ou pas. J'ai essayé de faire de mon mieux. Maintenant, après coup, on est toujours plus malin que quand on prend les décisions, ça c'est clair.
Étienne Klopfenstein, député au Grand Conseil, président sortant de la députation francophone. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je vous souhaite une belle journée.
À vous aussi, merci. Au revoir.
Merci. Un vol à Bienne relié à ses autres larcins. La police cantonale bernoise s'est vue remettre en février 2020 un homme interpellé sur territoire neuchâtelois pour un vol commis à Bienne. Après une enquête de police, il s'est avéré que l'individu de 39 ans a trois complices. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir participé en tout à 16 vols à l'étalage et à la tire. Les larcins ont été commis dans les cantons de Berne, Neuchâtel, Fribourg, Soleure et Bâle. Selon la police cantonale bernoise, les suspects ont probablement agi en bande et de façon professionnelle. Une partie du canton du Jura s'est réveillée sans électricité ce matin. Une panne de courant a été constatée en Ajoie, entre Courtemèche et Vandelincourt. Plus de 600 foyers ont été touchés vers 6h30. La situation revient peu à peu à la normale, selon les BKV et la police cantonale jurassienne. Travailler à la maison, la tendance s'est accentuée ces derniers temps à cause de la pandémie de Covid-19. Là où cela était possible, les tâches ont été effectuées depuis chez soi. Dans l'horlogerie aujourd'hui largement industrialisée, les tâches sans les machines ne sont plus envisageables à domicile. Mais vers 1870, 60 000 personnes façonnaient encore les pièces chez elles pour la fabrication des montres. Les paysans y trouvaient un revenu complémentaire intéressant. À quoi ressemblait cette manière de travailler ? Élément de réponse avec Hervé Moons, docteur en anthropologie chargé d'enseignement à l'université de Neuchâtel.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un paysan horloger, c'est d'abord un paysan qui a donc pour activité principale la paysannerie et qui complète ses revenus avec des revenus d'appoint dans le domaine de la fabrication des montres. Il ne fait jamais toutes les montres, il s'occupe jamais de toutes les étapes de conception et de fabrication des montres, il réalise des petites parties. C'est une sorte de sous-traitant qui s'occupe d'une petite partie du travail de fabrication des montres pour un maître d'œuvre qui s'appelle l'établisseur. C'est une réalité qui dure de la fin du XVIIe jusqu'à la première moitié du XIXe siècle.
Donc aujourd'hui, ça n'existe plus ?
Absolument pas. Ça n'existe plus depuis le dernier tiers du XIXe siècle. Non pas parce que l'industrialisation aurait effacé ce métier, mais parce qu'il y a eu un recul important de la paysannerie dans les espaces jurassiens. Et qu'on a assisté à une spécialisation des professions avec l'arrivée de la profession d'horloger des métiers de l'horlogerie et un recul donc de ces personnes qui cumulaient les activités de paysannerie et d'horlogerie.
Quant à un retour à un tel modèle de travail suite à la pandémie de Covid-19, Hervé Moons dit en douter fortement. Une course d'1 million de kilomètres, c'est l'objectif lancé aux Suisses par trois entreprises nationales. Les intéressés à la marche et à la course à pied ont depuis ce samedi jusqu'à demain soir pour réaliser leurs kilomètres. Après l'inscription sur le site internet, une application permet d'enregistrer les performances et de les additionner. 1 million de kilomètres, c'est un chiffre qui peut paraître élevé. Les explications de Salvador Garcia Saldogui, cofondateur de la société iRewind, organisatrice de 1 million Run.
On a longuement discuté dessus sur la base de différents événements sportifs que nous faisons tous ensemble parce que Datasport, comme société de chronométrage, fait plus de 300 événements en Suisse ou Weltklasse de Zurich avec tous ces grands rencontres sportives qu'ils organisent également, par exemple au Leipzig Round. On savait que le 1 million serait un challenge, mais qu'on pourrait y arriver. Et c'est pour ça qu'on a mis 1 million de kilomètres.
Vous estimez vos chances très hautes d'arriver à cet objectif ?
Alors, pour l'instant, les statistiques et les inscriptions montrent qu'on devrait y arriver. Bien évidemment, cela va dépendre de quelle distance va faire chaque personne. Si tout le monde est extrêmement motivé, plus la distance est grande par personne, plus on va avoir de chances d'atteindre 1 million de kilomètres. Et c'est ce qu'on espère. Donc, on sait déjà aussi qu'il y a certaines personnes qui voudront peut-être courir deux fois, qui vont s'inscrire deux fois pour faire une distance samedi et une distance dimanche. Et voilà, on compte vraiment alors sur le maximum de kilomètres par personne.
Des propos recueillis par Stéphanie Wenker. Les intéressés peuvent encore s'inscrire sur le site internet et participer au défi jusqu'à demain soir. Les États-Unis ont acté leur départ de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. C'est un sérieux revers pour la santé mondiale, a commenté ce matin le ministre allemand de la Santé. Le président américain Donald Trump a quitté cette relation la nuit dernière. Il estime que l'OMS a été manipulée par la Chine durant la crise du coronavirus. L'Allemagne souligne ce matin la nécessité de reformer l'institution. Le pays veut que l'Union européenne s'engage financièrement davantage. Enfin, les basketteurs pourraient faire le retour au jeu le 31 juillet en NBA. C'est la date visée par le patron du basket outre-Atlantique pour relancer le championnat. Son plan de reprise sera soumis au club la semaine prochaine. Il prévoit des matchs à huis clos sur le site de Disney World. Pour rappel, la NBA est à l'arrêt depuis le 11 mars en raison de la pandémie de Covid-19. La fin de cette édition, je vous souhaite une belle journée.
Merci beaucoup, Régis. Joël Régli, on vous retrouve à grand plaisir tout à l'heure sur RJB à 18h. Nous, on prend quelques nouvelles du ciel. Et ces nouvelles du ciel qui sont plutôt bonnes, hein, puisque ça sera une journée bien lumineuse aujourd'hui avec quelques cumulus qui vont venir troubler la fête, mais rien de grave tout au long de cette journée. Ça sera principalement sur les crêtes. Les températures très agréables pour la saison, malgré la bise. On atteindra 21 degrés sur le Seeland, 19 degrés pour les vallées, 12 petits degrés en haut du Chasseral. Pour demain, dimanche, la journée sera idem. Vous pouvez copier et coller cette journée pour demain. Les températures, elles seront également situées entre 20 et 21 degrés pour le Seeland, aux alentours des 19 à 21 degrés pour les vallées. Lundi, la journée de Pentecôte, eh bien là, le temps sera un tout petit peu plus nuageux sur les crêtes. La bise va se casser le nez, comme le disait Joël Régli dans son journal, et ça va permettre aux températures de gagner quelques petits degrés. On ne devrait pas avoir l'ombre de quelques gouttes de pluie avant mercredi.